Bon, maintenant, la parole est au public dans la salle. Est-ce qu'il y a des... Oui, Jacques de Decker, s'il vous plaît, allez au micro.
J'ai trouvé ce débat formidable. À tous égards, les trois interventions étaient très très riches et complémentaires. Et brusquement, ce que je viens d'entendre à propos de la notion de métropole m'a fait comprendre pourquoi l'Europe ne fonctionnait pas. En fait, il faut savoir que Bruxelles est devenue capitale de l'Europe par un raisonnement, par soustraction. C'est parce que les Français auraient bien voulu, mais n'ont pas osé. Les Allemands, c'était trop tôt. Les Italiens, n'en parlons pas. Donc, c'est tombé sur Bruxelles. Donc, on a jeté sur Bruxelles cette espèce de marque de la métropole. Or, il y a un fonctionnement dans le Parlement européen que vous n'ignorez pas, qui est qu'une session sur trois se passe à Strasbourg. Ça veut dire que tous les 2 mois à peu près, il y a des containers de dossiers qui vont de Bruxelles à Strasbourg. Les parlementaires logent à Strasbourg pendant quelques jours, font leur session et reviennent. Ça, c'est simplement parce que la France avait besoin d'un lot de consolation pour ne pas avoir eu Paris, puisque Paris, c'était le rêve d'Hector Hugo déjà, et que Strasbourg, c'était parfait, parce que là, c'était la parfaite réconciliation de la France et de l'Allemagne à l'avantage de l'Europe. Et je trouve que ce que j'ai entendu ce matin montre à quel point le raisonnement est absurde. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de métropole, à vrai dire. Les métropoles, vous avez donné dans une perspective historique. La preuve, c'est qu'un historien a pu faire une synthèse qui a 40 ans et qui est toujours valable. Ça veut dire que ça n'a pas bougé. Et au contraire, ça a plutôt dégringolé, comme il le dit lui-même. Et qu'à partir du moment où on introduit les modes de communication actuels, la bonne façon de passer au stade suivant de l'organisation, disons, politique, est de travailler sur un village global, mais qui serait un village global démocratique. Alors la question est de savoir comment on met ça en place.
Mais j'aurais peut-être une question à vous poser, parce que mon dernier voyage à Bruxelles m'a beaucoup intéressé, précisément parce que là, bon, j'ai une amie qui est écrivaine et peintre, qui habite un vieux quartier, et là, ce que j'ai senti, c'est que cette présence européenne, est, notamment, bon, c'est énorme quand même, c'est assez énorme, c'est que c'est ce quartier administratif, des grands immeubles modernes. Créait aussi à l'intérieur de la ville quand même une sorte de conflit. En tout cas, elle, je peux dire qu'elle détestait absolument ce quartier. Elle trouvait que c'était la destruction de la ville, que c'était quelque chose d'absolument, évidemment, anonyme et sans caractère. Donc, il y a cette, comme un peu cette tension aussi entre une sorte d'uniformisation administrative, mais qui vient du caractère européen de la ville, de son caractère politique et tout, et de l'autre, bon, on pourrait dire la ville... peut-être plus enracinés dans les quartiers, dans des habitudes qui n'ont rien à voir, finalement. Et comme il y a comme deux villes, là, est-ce que c'est exact? Ou il m'a semblé que ça se présentait comme une sorte de conflit, en tout cas.
Parce que Bruxelles a été installée comme capitale européenne de manière clandestine. C'est-à-dire que lorsque la question s'est posée de la Cour de justice à Luxembourg, on a cherché à un espace plus ou moins disponible hors de la ville, et on l'y a construite. Même chose à Strasbourg, d'ailleurs, où le Parlement se trouve un peu en dehors de la ville. À Bruxelles, les promoteurs n'ont pas osé faire ça de manière si catégorique. Et ils ont acheté parcelle par parcelle, en essayant de rester dans le même périmètre. Et ça donne en fait comme un emplâtre collé sur la ville. Ça n'a pas que des désavantages. C'est-à-dire que ça a l'avantage d'avoir intégré malgré tout cette chose qui est gênante pour une partie des habitants, est en même temps très fructueuse, par exemple, pour les commerçants. Ça veut dire que tous ces fonctionnaires européens ont enrichi des restaurateurs, des épiciers, des magasins de confection dans la ville existante. Il y a là quelque chose de très difficile à décrire, dont il faut écrire l'histoire. Comment a-t-on fait une deuxième ville dans une première ville? Et une deuxième ville avec une vocation auquel Bruxelles même ne s'attendait pas du tout. On n'arrive même pas à savoir où l'idée a germé. Elle n'a pas germé au niveau du politique belge, Elle a sans doute germé au niveau des instances européennes, mais comment la connexion s'est faite avec les intérêts financiers et capitalistes est très difficile à déterminer.
Merci.
D'autres interventions ?
Oui, alors j'ai trouvé les
André
exposés.
Brochu.
Oui, André Brochu. J'ai trouvé les exposés très intéressants. J'aimerais seulement savoir que devient la notion de littérature nationale dans le cadre de la mondialisation, dans un contexte donc où on rejette l'idée même d'origine culturelle, où triomphe l'idée d'une espèce de polyphonie, en quelque sorte, des langues et des cultures. Alors, que devient la notion de littérature nationale telle qu'elle s'est constituée, en particulier depuis les années 60, et telle qu'elle a vécu tant bien que mal jusqu'à récemment?
Mais je ne crois pas que cette... Enfin, en tout cas, de mon point de vue, cette perspective-là là, qu'on a développée, peut-être, n'est pas une négation de l'idée de littérature nationale. Ça relativise sûrement cette notion-là. Mais cette notion-là tient toujours. Tout de même, par exemple, on le voit dans le fait que, encore c'est récent, 2007, c'est la publication d'une magistrale histoire de la littérature québécoise de François Dumont, Michel Biron, Elisabeth Nardou-Lafarge. Tout simplement, pourquoi c'est possible? Parce qu'il y a à l'intérieur d'un certain espace qui est à la fois culturel, politique et tout, des filiations, des enchaînements, des œuvres les unes à travers les autres. Je pense que on ne peut pas tout à fait comprendre Miron si on ne comprend pas Saint-Denis Garneau et Alfred Desrochers, mais les deux ensemble. Alors, donc, c'est un exemple, parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais je veux dire, de ce point de vue-là, la notion de littérature nationale a une validité littéraire, à mon point de vue. Il y a des traditions qui se sont... Mais je pense qu'effectivement, en même temps, d'un autre point de vue, elle éclate, en tout cas, chose certaine, elle fait l'objet d'une remise en question assez profonde et donc d'une relativisation qui apparaît d'ailleurs dans cette histoire de la littérature récente, dans la mesure où pour la première fois, il y a un chapitre sur les écrivains anglophones du Québec. Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, la notion classique de littérature nationale telle qu'elle s'est définie dans les années 60 ne tient plus, mais elle n'est pas détruite pour autant. Simplement, là, il y a une porte qui s'ouvre sur autre chose, un corpus qui, jusque-là, était problématique ou paraissait exclu. Bon. Mais je pense que cette inclusion dit quelque chose de notre situation nationale aussi. Alors, pourquoi pas? Mais je ne le vois pas comme un rejet ou comme une négation pure et simple. C'est ce que je répondrais, mais peut-être que...
Moi non plus, je ne crois pas qu'on soit passé à une ère de la littérature post-national, ou qu'on ait rejeté complètement ce modèle-là. Je pense que la polyphonie peut informer une création littéraire contemporaine, mais cette polyphonie, elle est comme la langue nationale, elle est conditionnée par l'endroit d'où on écrit. Et je pense que même si les apports étrangers ont modifié ou infléchi le parcours de la littérature québécoise, quand on reçoit un livre québécois, il suffit de demander à nos correspondants francophones. D'ailleurs, ils le reçoivent pas comme ils recevraient un livre de Paris. Il y a quelque chose qui est encore très spécifique à ce qui s'écrit ici, comme sans doute il y a des choses très spécifiques à ce qui s'écrit dans les Antilles ou en Afrique francophone.
Oui. Madeleine?
Oui, ben moi je penserais peut-être dans les termes d'un déplacement de ce concept de littérature nationale, peut-être. Votre question m'a rappelé quelques notes que j'avais prises en préparant cet exposé, et entre autres une citation de Frederick Jameson qui dit que l'impact démographique et phénoménologique des minorités et des migrants à l'intérieur des pays occidentaux pourrait être essentiel pour concevoir le caractère transnational de la culture contemporaine. Moi, je pense que la littérature nationale québécoise, elle est comme elle se diversifie, si vous voulez. On n'entend plus maintenant la même chose par littérature nationale qu'on l'entendait en 1960. Et je pense que... il est très clair pour moi que cette littérature nationale est attachée à la langue française, mais que cette langue française-là, qu'elle soit parlée par ou écrite par Ying Chen ou par Pierre Neveu, pour moi, c'est ça qui est important de réévaluer, si vous voulez, dans notre compréhension de la littérature nationale. Il se produit un déplacement et une ouverture. Et je crois que, d'une certaine façon, la transnationalisation, si vous voulez, des cultures atténue presque par nécessité le local, si vous voulez. Mais je crois que on est ancré en terre d'Amérique, on a plongé nos racines ici, et ceux qui se joignent à nous pour écrire sur le même sol que nous et qui adoptent ou qui comprennent nos problématiques ou qui les adoptent ou qui les révisent, qui permettent une autre déprogrammation de notre regard sur le réel, je crois que c'est tout ça qui fait qu'on a une littérature nationale qui est vivante, mais qui n'est pas définie par sa fermeture ou sa ténacité.
Je voudrais donner un exemple qui est pour moi qui est pas seulement littéraire, mais qui est aussi historique parce que c'est un travail d'historien, mais qui comporte une part de littérature. Je pense au travail fait que c'est un éditeur de Québec, les éditions du Septentrion. Pour moi, c'est Denis Vaugeois, donc, qui est le principal animateur de ce film, et Denis Vaugeois est un Québécois nationaliste quand même, dans une bonne mesure. Mais en même temps, il me semble que le travail depuis 15 ans des éditions du Septentrion a fait apparaître, c'est-à-dire à la fois une diversité interne. Par exemple, ils ont publié plein de textes, même traduits du yiddish, des textes traduits par Pierre Anctil, par exemple, qui nous donnent un autre regard sur Montréal auquel on ne pouvait pas avoir accès auparavant, et qui, je pense, font en sorte que notre notion, non seulement de Montréal, mais de ce qu'a été le Québec, s'en trouve modifiée et nous fait relire même certains textes. Moi, je lis plus de la même façon Aaron d'Yves Thériault, qui est un texte sur la communauté juive, de la même manière, parce que j'ai lu ces autres textes-là. En même temps, il y a eu un travail que j'appellerais exotopique, c'est-à-dire sur le Canada français tel qu'il a été, et ça se poursuit, il n'y a pas que Vaugeois, il y a Serge Bouchard et plusieurs autres qui travaillent dans ce sens-là, sur ce qu'a été ce Canada français qu'on a à l'époque de la Révolution tranquille, en général renvoyé dans la Grande Noirceur, et qui montre par exemple qu'il y a eu des Québécois qui sont allés un peu partout en Amérique dès le 19e siècle et qui ont fait des choses intéressantes, qui ont exploré, qui ont établi des contacts avec les Autochtones, qui ont participé à l'expédition de Lewis et Clark au début du 19e siècle. Donc, je dirais, pour moi, ça nous renvoie d'une certaine façon aussi à ce qu'est la nation, mais ça enrichit, de mon point de vue, ça étoffe cette notion-là et ça se permet aussi d'éviter ces espèces de stéréotypes entre nous et eux, ou bien entre ici et ailleurs. Tout ça se trouve à interagir d'une façon complexe, intéressante. En tout cas, pour moi, c'est un apport plutôt qu'une perte.
Moi, je voulais ajouter là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un paradoxe qui est particulier à notre littérature, c'est que j'ai l'impression que la littérature nationale, elle a précédé la nation, et que comme la nation n'a pas vraiment suivi, se sont posées un certain nombre de questions qui ne se posent pas dans des littératures nationales mieux définies. Je veux dire par là que les Français ont pu intégrer très rapidement Ionesco ou Kundera parce qu'ils n'avaient pas le problème de savoir s'ils étaient une nation ou pas, alors que si on se pose la question pour Coquiss ou pour d'autres écrivains qui sont venus d'ailleurs et qui ne sont même pas des francophones de naissance, qui ont choisi le français, c'est peut-être justement parce qu'on n'a pas pu avoir la nation d'abord et que le corpus existe et lui intègre plus facilement des œuvres qui seraient exogènes.
Est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'il y a une dernière intervention, peut-être? Vous êtes tous affamés. Alors, on va clore ici la première partie de notre colloque. Nous nous retrouvons à 14h30 au même endroit pour une table ronde sur les métropoles culturelles francophones, particularités et enjeux. Donc, on reviendra à certains points qui ont déjà été discutés ou présentés ce matin. Alors, je remercie très, très chaleureusement les intervenants de ce matin, de cette table ronde, aussi M. De Decker et le public qui a assisté à cette rencontre. Alors, nous nous retrouvons à 14h30 et les intervenants sont invités au Café des Lettres pour un repas. Voilà.